Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Vous écoutez La Grande Séance, l'émission 100% cinéma en live sur Séance Radio.
Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission. Alors comme d'habitude, je vais vous présenter tout ce qui va se passer dans cette fabuleuse émission. D'abord, nos chers blogueurs seront là, Anaïs Bernot.
Bonsoir.
Bonsoir. Et Benjamin Bonnet.
Bonsoir Bruno.
Ils nous font la surprise de ce qu'ils vont nous parler tout à l'heure. Ça va être la surprise. Nos invités, alors on a vraiment un super trio. Ludovic Bernard, réalisateur de L'Ascension, le film dont on parle. J'étais à l'Alpe d'Huez, il a eu le prix du public et le prix du jury. Ce film avec entre autres Ahmed Silla et la petite Alice Belaïdi. On aura Ahmed Silla qui va arriver mais qui est un petit peu en retard, mais il va nous rejoindre dans un instant. Et puis l'heureuse productrice de L'Ascension, Laurence Lascari. On va tous se retrouver tout à l'heure à discuter. D'ailleurs, on parlera évidemment du film et puis dans la deuxième partie, on parlera de la production, savoir comment on produit un film comme L'Ascension et en général, comment on produit des films. Maël Noubissier, comment on fait pour nous appeler, pour poser des questions? Il y a déjà pas mal de questions qui arrivent, hein?
Effectivement, vous pouvez directement sur Twitter avec le hashtag AskLAscension nous poser des questions, ou du moins aux équipes du film.
Absolument.
En gros, ils vous répondront, que ce soit Ahmed Silla, Laurence Lascari ou Ludovic Bernard.
Quand on parle du loup, on le voit arriver. Bonjour. Et Ahmed Silla arrive, il s'installe dans le studio, il va s'installer à côté de moi. Bonjour Ahmed.
Bien.
Il arrive sur les chapeaux de roue. Vous voyez, ça c'est vraiment
du
le direct. Merci Maël. Dans un instant, les tops et les flops. Là, c'est toujours le plus difficile, hein. Évidemment, on aura nos blogueurs avec leur cinéma. Le débat, donc, de la difficulté à produire un film aujourd'hui. Et le blind test, vous verrez, on va beaucoup s'amuser à la fin de l'émission. Le blind test, alors, il est particulier. On écoutera des extraits de films qui parlent d'escalade, d'alpinisme et de montagne au cinéma. Pas évident. Hein.
À part les bronzés fonds du ski.
Vous connaissez. D'habitude, nos blogueurs sont très calés sur les blind tests, mais là, on va voir comment ça va se passer. Dans un instant, les tops et les flops du box-office.
La grande séance, le box-office.
J'étais en avance.
Allons-y. Non, mais dites-nous pourquoi vous êtes en retard. Bah, comme ça, pour me prouver que j'étais en direct, Ahmed.
Non. J'étais en avance de 15 minutes.
Oui.
J'étais bien.
Ouais.
Sauf que j'ai une personne au téléphone qui m'a guidé. De chez vous, Boom Radio, de chez vous.
Ah bon?
Qui m'a guidé, qui m'a emmené de l'autre côté.
Pas, s'il vous plaît.
Donc je ne sais pas qui est cette personne. Mais je lui en veux. Non, ça va très très bien. Ça va, je suis content d'être arrivé.
Voilà, super. Alors, on commence direct par les tops et les flops. Alors, du côté du cinéma français, le top, c'est Il a déjà tes yeux, de Lucien Jean-Baptiste, qui est à exactement ce soir 760 732 entrées France en deux semaines. C'est
très
pas mal
bien,
du tout.
C'est super.
Lucien Jean-Baptiste.
Ouais.
Sa première étoile avait fini à 1,5 million. Là, il va peut-être aller un peu plus loin. Voilà. Le flop français, c'est. Ah, quelqu'un devine ou pas? Non, je vois que personne n'ose le dire. C'est Dalida. C'est Dalida.
Les
Azuelos, ouais, Dalida. Dalida, 650 000 entrées en 3 semaines. Vous imaginez que le producteur attendait quand même beaucoup mieux.
Ouais. C'est un peu surprenant, surtout que Clo-Clo avait bien marché.
Ouais. C'est un film à 15 millions d'euros quand même.
Ouais.
Donc ça, c'est un échec. Je vois la productrice qui blanchit là-bas. Bon, bref. Autre échec, La Mécanique de l'ombre. Ce petit polar pas mal avec François Cluzet, qui est à 193 000 entrées en 3 semaines.
Ça, c'est rude.
Ouais, c'est rude. Vous l'aviez vu?
Non.
Voilà.
La bande annonce était alléchante.
Ouais.
J'avais envie d'aller le voir.
Ouais, mais voilà, il marche pas. Alors, passons aux Américains maintenant. Là, on est plus tranquille.
Tous en scène.
Tous en scène, absolument. Tous en scène qui, en première semaine, est à 805 000 entrées.
C'est un flop, ça.
C'est... ça pourrait être un flop, c'est vrai. Et alors, le flop, c'est notre ami Ben Affleck.
Ouais,
moi, j'ai pas vu le film. Live by Night, deux semaines, 208 000 entrées.
Ouais.
C'est dingue. Qui a vu le film ici?
Bah moi j'ai pas vu, mais il y a pas eu beaucoup de promos dessus non plus. Hein.
Non, non, c'est curieux parce que moi j'avais entendu dire que c'était un très bon polar.
Mmh. Oui, c'est ce que j'ai entendu aussi. Ouais.
Normalement,
il y a beaucoup
Affleck
de bons films français,
bon
donc du coup, on...
ouais.
Ouais.
Voilà. Il y a eu l'ascension qui est sortie à la place, c'est pour ça.
Absolument, l'ascension a tout raflé. Il faut empêcher des films comme ça de sortir parce qu'il occupe 800 écrans et bref. Dans un instant, on se retrouve avec nos blogueurs.
La grande séance, l'actu cinéma des blogueurs.
Anaïs Bernot de We Love Cinéma. Alors là, c'est un vaste programme, je vois. Votre question, c'est les doutes qui planent sur Hollywood avec l'arrivée de Trump. Super, super sujet.
Je ne suis pas géopoliticienne ni spécialiste du sujet, mais moi, c'est une vraie question que je me suis posée dès le jour où il a été élu et que je vais continuer de me poser, d'autant plus avec son dernier décret sur le Muslim ban. On a vu les premières conséquences de ça, c'est que le réalisateur iranien Asghar Farhadi ne va sûrement pas pouvoir venir aux Oscars et présenter son film quand même.
Absolument.
C'est assez hallucinant. Donc moi je me demande dans
c'est
un pays
choix personnel,
c'est un choix.
C'est un choix personnel.
Oui, mais après, voilà.
C'est un peu par solidarité.
Exactement. Sur le principe, il est iranien et l'Iran
bien
faisant
sûr.
Partie.
Mais c'est un choix personnel.
Mais tout à fait.
Ludovic Bernard, je dis qu'il parle parce qu'on ne connaît pas forcément les voix.
Du coup, la vraie question, c'est est-ce que ça va continuer d'influencer ? Est-ce qu'il y a des réalisateurs étrangers qui finalement ne voudront plus aller produire ou tourner des films par solidarité aux États-Unis ? Surtout, il y a un aspect culturel qui est hyper fort et qu'on a vu, qui a commencé avec Meryl Streep et qui s'est vu à fond à la dernière cérémonie des SAG Awards. Tous les discours des gens qui venaient chercher des prix sur scène, de tous les acteurs, que ce soit des séries ou des films, ça n'a parlé que de Trump, ça n'a parlé que de politique, des messages anti-Trump, donc il y a une vraie... Il y a d'un côté tous les acteurs, surtout les acteurs qui sont issus des minorités, qui ont l'habitude, qui se disent enfin, on est enfin un petit peu mis en avant, on essaye de combattre le whitewashing, etc. Et là, ils sont en train de se demander, est-ce que c'est pas un retour en arrière ? Est-ce qu'on va pas le subir ? Est-ce qu'on va pas arrêter de nous donner des rôles ou parler de la ségrégation ou de quoi que ce soit dans les cinémas hollywoodiens? Est-ce que ça va vraiment changer la face du cinéma hollywoodien? Est-ce qu'il va y avoir... On peut vraiment se poser aussi la question de la censure. De la même façon que Trump décide qui de la presse a le droit de s'exprimer, a le droit de lui parler, de faire des papiers sur lui, est-ce qu'il va pas y avoir un petit peu la mainmise là-dessus? On peut aussi se poser la question. Et puis dernier point, qui est un peu plus lointain, c'est comment va se retrouver le mythe du président américain dans le cinéma hollywoodien. Aujourd'hui, dans n'importe quel film d'action, dans n'importe quel film d'espionnage, il y a le mythe des États-Unis du président américain.
Mais Anaïs, je vous coupe. J'ai vu Jackie aujourd'hui et on pense évidemment, Jackie, c'est le portrait un peu dans l'ombre à travers l'histoire de Jackie Kennedy, le portrait du président Kennedy. Et on ne peut pas s'empêcher, quand on voit le mythe qu'était le président Kennedy, Jack, comme elle l'appelle dans le film, John Kennedy, on pense à Trump. Parce que là, on sait qu'il a laissé une trace dans l'histoire.
Ouais.
Et quelle trace, John Kennedy? Et forcément, quand on voit Jackie, on pense à Trump. C'est marrant.
Ouais, mais je pense que, pas tout de suite, du coup, forcément, mais dans quelques années, on va voir des films qui vont traiter de ce problème-là et de ce sujet-là de façon différente. Parce que le film, le cinéma. Oui, voilà.
Est-ce qu'il faut
ça va être long, mais.
Est-ce qu'on espérait la même fin que Kennedy?
Non.
On va le dire. C'est
alors, justement, on passe à Benjamin.
C'est une comédie. Je crois qu'on a été coupé de l'antenne.
Benjamin Bonnet, In the Mood for Ben, vous nous parlez de quoi aujourd'hui?
Alors, je vais parler de quoi ? Je vais parler d'adaptation de romans au cinéma, puisque je pense que c'est aussi très intéressant d'en parler ce soir, justement par rapport au film L'Ascension, et de voir comment on arrive à s'émanciper d'un roman qui est préexistant et qu'on en fait une histoire qui est autre. C'est ce qui m'a beaucoup plu d'ailleurs dans le film, on en reparlera tout à l'heure avec nos trois invités. Juste pour remettre un peu en historique, il y a énormément de films qui sont tirés en fait de romans dont on sait pas forcément au départ que ce sont des romans, parce que les films sont plus connus que les romans. On pense évidemment à D'entre les morts de Boileau Narcejac, qui a inspiré Hitchcock pour Vertigo. Le champion en la matière, c'est quand même Kubrick. Je pense qu'entre Shining, Orange Mécanique, 2001 l'Odyssée de l'espace, Barry Lyndon et Lolita, on a cinq masterpieces qui sont tous issus de livres
et qui font des films brillantissimes.
Donc c'est ça un peu ce sur quoi je voulais challenger. Mais surtout, ce qui est aussi intéressant, c'est que on sait pas non plus, mais Kubrick avait commandé à Nabokov à l'époque le scénario de Lolita. Donc il lui a livré un scénario de film et Kubrick lui a dit écoute, je peux pas faire de film sur la base de ton scénario. Donc ils se sont brouillés à vie. Donc il a refait derrière entièrement un scénario pour faire le film qui est le film Lolita, sorti en 62. Et donc voilà, on voit bien que c'est deux genres complètement différents et que c'est super d'adapter des romans pour en faire des films, mais bien évidemment que la patte du réalisateur, du scénariste...
Il faut s'en libérer, tout le monde le dit. Ouais. On posera la question à Ludovic Bernard.
2016-2017.
De manière générale, pas forcément pour l'ascension.
Oui, c'est exactement ça l'idée, c'est d'engager aussi un peu la discussion autour de ça. En 2016-2017, on voit bien, donc on a eu Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal, adapté par Cazel Kilvéré. Ouais. On voit que c'est un genre qui même dans le cinéma français, en 2016 et 2017 est assez présent. On parle pas du sac de billes en ce moment de Fofo, évidemment. On a évidemment un tocard sur le toit de Nadine Dendoun. Voilà, donc c'était à peu près ça dont je voulais parler, au sens bien. De lancer un peu le débat, voilà, avec nos invités ce soir.
S'ils nous écoutent, c'est Nadir, pas Nadine.
Nadir.
Sur le toit du monde.
Sur le toit du monde.
J'espère que tu vas bien, Nadine.
Nadine. Justement, à propos de Nadine, vous allez voir la transition. Dans un instant, on se retrouve avec nos invités.
La grande séance, l'interview.
À propos de Nadine... Mon épouse s'appelle Nadine, et depuis qu'elle vous a vu à la télévision, elle ne parle que de vous. Parce qu'elle ne vous a pas vu sur scène, mais elle a vu le spectacle qu'on a vu, Ahmed avec un grand A qui est passé à la télé.
Qui est
là.
Passé sur C8, c'est exactement.
Ça. C'est ça, alors
j'étais
elle
là
dit,
aussi.
Parce qu'elle, elle n'a pas vu l'Ascension.
Ah, mais elle pourquoi dit, elle n'a pas vu l'Ascension?
Elle n'a pas vu l'Ascension parce qu'elle n'a pas le temps d'aller au cinéma. Moi,
pourtant,
c'est mon
on peut
métier.
Avoir des invites. Hein.
Ouais.
Moi, je connais très bien la productrice.
En tout cas, je commence par faire une petite parenthèse. Elle dit que sur scène, vous êtes absolument génial. Vous avez une maturité fantastique, vous avez un don d'improvisation avec le public qui est dingue, et pourtant elle connaît les comiques, elle a vu tous les comiques de Ruquier, tout ça, etc. Donc,
j'ai commencé chez Ruquier en plus.
Ouais.
Mais merci beaucoup Nadine. Nadine Crass du coup.
Ouais, absolument.
Nadine Crass, je vous embrasse très fort.
Voilà, super.
Merci beaucoup.
Je dirais d'écouter en podcast. Revenons à l'Ascension. Alors évidemment, moi le film, je l'ai vu. J'avais même vu avant l'Alpe d'Huez. Alors je vais faire le pitch pour ceux qui l'ont pas encore vu. Et il y a encore du monde qui peut aller dans les salles. Donc voilà, c'est l'histoire de Sami Ahmed Silla, qui est un tchatcheur. Il fait pas trop grand chose de sa vie, mais il est amoureux d'une jolie beurette qui est jouée par Lise Belaïdi, et elle a les pieds sur terre, elle. Donc voilà, c'est le cas de le dire d'ailleurs.
Exactement.
Parce que comme il va monter, elle a les pieds sur terre, et elle le retoque un peu, et puis lui, il part comme ça, il est dingue d'elle, et donc il dit, tu sais, pour toi, je grimperai l'Everest. Voilà. Il lance cette parole en l'air, et justement, il va devoir monter. Et puis finalement, il se dit, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et ce qui est très beau dans cette histoire, c'est que, évidemment, il le fait pour les yeux de sa belle, mais il le fait pour lui aussi.
Voilà, exactement.
C'est une histoire de dépassement de soi. Dire que ça va être dur, le Népal, 5000 mètres de hauteur, puis 6000, 7000, 8848 mètres et des poussières, et il va faire cette ascension, et voilà, et pour se prouver à lui-même qu'il peut faire quelque chose de sa vie. Donc c'est une très belle histoire, ça aurait pu être une histoire un peu simplette, ça l'est pas du tout, parce que c'est émouvant, c'est plein de charme, c'est drôle et c'est émouvant. Moi j'ai versé ma petite larme, vous voyez, et
pourtant voilà. Moi aussi.
Après 9000 films, voilà. J'ai versé ma petite larme. Et voilà, je pense que je l'ai bien vendu là, mais c'est sincère en plus.
Au-delà d'être bien vendu, c'est très gentil de votre part, puisque c'est un ressenti personnel.
Ouais, absolument.
Pour le coup. Et c'est vrai que c'était l'ambition de ce film, en tout cas l'ambition de Ludovic, de Laurence, c'est de faire un film qui soit drôle et à la fois touchant et très universel. Et je pense que c'est ça, là où on a vraiment réussi notre pari, c'est vraiment que ça touche toute génération, tous milieux sociaux et à des moments différents. Il y en a qui vont être plus touchés par la drôlerie du film et d'autres qui vont être pris dans l'émotion de cette histoire d'amour.
Et ce qu'il faut dire à ceux qui nous écoutent, c'est que j'ai vécu donc tout le festival de l'Alpe d'Huez, et c'est vrai, j'ai vu ce jury avec Omar Sy, qui a réfléchi dans l'ombre, si je peux dire, le dernier jour, sans tenir compte évidemment du vote du public. Le public de son côté a voté, et c'est bien quand c'est comme ça, parce que moi j'ai assisté à des jurys où on dit, comme le public a donné son prix, nous on va pas le donner, et la personne ne savait quel prix il attribuait, et il s'est retrouvé le film avec à la fois le prix du public, c'est quand même un super prix, et le prix du jury, il y avait un super jury. Donc ouais. Ludovic Bernard, c'était la joie ce soir-là.
Moi, c'était un grand sourire aux lèvres. Et encore aujourd'hui, qui ne va toujours pas quitter. Ouais. Non, c'est une immense fierté quand on réussit un film. Enfin,
quand on pense avoir réussi un film et qui touche autant le public, c'est absolument génial.
Alors vous, vous êtes réalisateur depuis longtemps, on peut dire, même si c'était premier assistant ou réalisateur d'une première équipe, mais ça m'a surpris, La Haine, ça vous rajeunit pas quand même, non, hein, d'avoir travaillé dans La Haine, hein, ouais, ouais. En 1994. Hein.
J'étais second assistant.
Assistant, oui, c'est mieux de dire ça. Et alors, ça a été... Et est-ce que sur le papier, ça vous a fait peur? Parce que, voilà, quand on voit le film, on s'y croit, on est au Népal, Samy est au Népal, avec un Sherpa qui est très drôle, d'ailleurs, avec un type qui est moins drôle mais qui est un acteur excellent qui est son guide et à qui
Nicolas
raconte
Vanzisky.
Voilà, à qui il raconte qu'il a fait plein d'ascensions, le Samy, mais tout est faux et l'autre le croit qu'à moitié. Il fallait avoir ce rendu au cinéma que Samy grimpe jusqu'à 8848 mètres. Comment vous avez fait?
Je crois que j'étais un petit peu innocent comme le personnage de Samy, c'est-à-dire très naïf en me disant on va y arriver et on va foncer. Non, le truc de départ avec Laurent, c'était de rendre ce film universel, comme l'a dit Ahmed tout à l'heure, mais de dépeindre une banlieue pas joyeuse plutôt qu'une banlieue triste et dépressive, grise et foncée comme on voit souvent dans les films. Et je crois que c'est ça qu'on a réussi. Et d'aller vraiment au Népal jusqu'au camp de base de l'Everest pour tourner toutes ces images qu'on voit dans le film qui sont aussi impressionnantes. Parce que je crois au cinéma, faut voyager. J'aime bien voyager au cinéma, j'aime bien être ému au cinéma. Et j'ai réussi à réunir dans ce scénario que Laurence m'a offert tous ces éléments-là.
Mais le Sherpa, par exemple, c'était un type qui vivait au Népal.
Alors c'est un vrai Népalais qui habite Katmandou, qui est pas vraiment acteur, qui est un petit peu acteur par-ci, un petit peu éclairagiste par-là, qui travaille dans ce milieu, voilà. Mais il y a pas beaucoup de cinéma à Katmandou, il y a pas beaucoup de théâtre non plus. Et je l'ai rencontré parmi pas mal d'autres jeunes Népalais quand on faisait le casting. Mais c'est lui qui avait le sourire le plus radieux, quoi, qui a un sourire absolument incroyable,
c'est communicatif.
C'est une vedette dans le film.
Et même en France, c'était une vedette. Il a fait avec nous la tournée des avant-premières, le périph' tour. On a fait une petite tournée en banlieue parisienne et les gens donc ne s'attendaient pas à ce qu'il soit là à la fin des séances. C'était mais de la folie.
C'est un vrai personnage qu'on adore dans le film.
Il a un très beau sourire. Je voulais vraiment terminer le film sur lui. Voilà, donc il me fallait ce sourire, c'est ce côté heureux, ce bonhomme heureux qui repart au travail, qui repart vers de nouvelles aventures.
Est-ce que
Monsieur
Bernard, vous venez de spoiler la fin du film?
On verra l'image à la fin.
On verra. J'ai passé un petit coup de fil à Donald Trump.
Vous parliez de l'ambiance de la banlieue. Dans le film, il y a aussi quelque chose qui apporte beaucoup, c'est la radio. Parce qu'il faut dire quand même que les aventures de Samy sont suivies par une radio locale et qu'à un moment, il perd un peu sa trace et ça soutient aussi le rythme du film parce qu'il y a beaucoup d'humour, beaucoup de joie, beaucoup de chaleur dans cette histoire.
Le lien qui me ramène tout de suite à la Courneuve, à la France, et c'est un peu une radio associative un peu à l'ancienne, comme il y avait des radios libres.
Toutes les premières radios libres, absolument.
Donc c'est ça que j'aimais bien côté artiste de cette radio, et grâce à Kevin Razi et Walidia qui ont été absolument extraordinaires de fraîcheur, parce que quand je les ai rencontrés tous les deux, le deal c'était que comme on savait qu'on devait aller avoir un rythme différent sur l'épopée népalaise, il fallait que eux ajoutent énormément de rythme dans leur jeu, dans leur diction, dans leur façon de jouer. Donc c'était très important d'avoir beaucoup d'énergie avec eux, et ils ont rempli le contrat magnifiquement.
Et puis je veux citer Alice Belaïdi parce qu'elle est vraiment merveilleuse dans le film. Je dis pas ça comme ça, c'est qu'il y a des moments où elle est extrêmement émouvante. Je me souviens encore de la scène où elle va rencontrer la maman de Samy, où elle doit un peu s'excuser parce que là, la maman pense que c'est à cause d'elle que Samy est parti dans ses hauteurs. Et elle est extrêmement émouvante. Donc
elle est incroyable, elle est
exceptionnelle. Ouais, franchement, c'est une comédienne comme... Moi, j'ai pas fait beaucoup de films. Elle est super. Elle est très très bien.
Ouais, elle est super. C'est une super, une future grande.
Elle est très vive. Je fais juste une parenthèse. Elle comprend l'essentiel des scènes.
Très vite.
Très très rapidement. Et c'est ça qui est absolument génial avec elle. C'est qu'elle va à l'essentiel et il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de. tout ce qui ne sert à rien, elle l'enlève, elle dépouille, elle donne juste l'essentiel. Et c'est ça qui fait que c'est magique.
Est-ce que c'est elle qu'on avait vue dans Radio Star?
Oui.
Mais elle est incroyable déjà. Donc c'est.
Et c'est deux extrêmes en plus entre Radio Star et l'Ascension.
Oui. Elle a fait un petit bout de chemin. Non, mais c'est une future grande. On va la retrouver. Maëlle, est-ce qu'il y a des questions?
Oui, bien sûr, directement sur le hashtag. Du coup, Ask l'Ascension, vous pouviez poser vos questions aux équipes du film. Donc, alors, à la volée, les questions donc, de Lolo qui dit l'adaptation au cinéma de l'histoire de Nadir Dendoun est-elle. Nadir Dendoun est-elle un pari risqué ou saviez-vous à l'avance que ça allait marcher? C'est une question à tout le monde.
Je vais peut-être y répondre. Donc, un pari risqué, bah oui, évidemment, parce que surtout quand on. Quand on produit son premier film et qu'on choisit de s'attaquer à un projet aussi énorme, oui, c'était hyper risqué.
Vous, c'était votre premier film en production. Ouais. Ludovic, c'est son premier film en tant que réalisateur et premier grand rôle.
Exactement, c'est un peu l'histoire de la première fois. Quoi.
C'est incroyable ça. Je vous ai coupé,
succès.
Pardon.
Et
Laurence Lascari.
Donc, c'est un peu les deux. C'est-à-dire, oui, c'est ultra risqué et oui, on y croit à fond, sinon on n'y va pas. Et c'est ce qui m'a fait tenir pendant les 5 années qu'ont duré le développement. C'est parce que j'y croyais et voilà, mais ça a été hyper compliqué, mais je suis là pour témoigner que c'est possible en tout cas.
Une autre question.
Une question qui va être plus pour Ludovic, je pense. La bande son est incroyable. Comment on arrive à choisir les bonnes musiques pour son film?
On appelle Lucien Papalou. Super bonne question. Lucien Papalou, absolument incroyable. On a travaillé sur les musiques très très longtemps, surtout sur la musique de fin, parce que il se passe plus grand chose entre guillemets, c'est-à-dire qu'on monte, il y a plus beaucoup de paroles, il y a plus que des images, et donc et la puissance émotionnelle vient vraiment de la musique. Donc quand on regarde Gladiator avec la musique d'Hans Zimmer ou encore Inception ou je ne sais quel autre film de ce calibre-là, c'est la puissance émotionnelle de la musique est toujours extrêmement forte. Donc c'était ça qu'il fallait aller chercher. Donc Lucien Papalou a réussi le pari fou d'être aussi fort que ça.
Autre question.
Une autre question, du coup, cette fois pour Ahmed. Alors, as-tu maintenant d'autres propositions de films?
Oui, on va bientôt adapter au cinéma l'histoire vraie de Nadine Dendoun, qui est la sœur de Nadine.
À Hollywood.
Oui, il y a des projets qui sont en train de se mettre en place, en tout cas. Et pourquoi pas avec Ludovic aussi? Puisqu'il y a une vraie rencontre, je suis tombé amoureux de ce réalisateur. Vraiment, c'est un coup de foudre professionnel.
Mais il y a des choix à faire quand même, on vous propose des choses plus ou moins intéressantes et c'est à vous de les choisir en âme et conscience, j'ai envie de dire.
Exactement, moi je fais pas du cinéma pour faire du cinéma, je lis tous les scénarios tous les traitements de texte qu'on m'envoie et je choisis avec mon équipe vraiment, si on est unanime sur le projet, on y va, sinon
mais
on y va pas.
Mais c'est qui l'équipe?
C'est mon frère, mon manager.
Et est-ce que le cinéma, ça peut aller très vite? Est-ce que ça peut pas vous happer et que du coup, vous qui adorez la scène, ça peut pas vous détourner de la scène? Il y a un équilibre à faire là.
Il y a un équilibre à faire. Bah écoutez, par exemple là, je rentre en tournage le 1er mars là.
Ah déjà?
Déjà. Avec Philippe Lachaud et Julien Ruti, Élodie Fontan, Jarry, on a un beau projet, un beau projet de comédie ensemble.
Ouais.
Et je serai en même temps en tournée pour mon spectacle. Donc là, pour l'instant, j'arrive à lier les deux. Mais c'est vrai que ça va être dur de faire des choix.
Pardon de vous couper, Philippe Lachaud, il n'a pas été contacté pour refaire une version de Taxi un peu plus jeune.
Franck Gastambide.
Combien de temps ça a duré, par exemple, le tournage de l'Ascension? Parce que là, les allers-retours sont un peu plus difficiles entre la scène et le tournage, j'imagine.
C'est clair.
Donc combien de temps ça a pris vraiment?
Ça a pris 2 mois.
11 semaines.
C'est rapide quand même.
Il est allé sur un peu plus de 4 mois. Février, mars, avril, mai.
Ouais,
donc voilà, ouais. Oui, parce qu'au Népal, on tournait pas 8 heures par jour, on tournait un peu moins, fait qu'on marchait beaucoup aussi dans la journée pour rejoindre le village suivant.
Et comment, ça devait être hyper difficile, du coup, non, avec le matériel pour filmer.
Mais heureusement, il faut rendre hommage à tous les Sherpas népalais qui nous ont aidés.
D'accord.
Vraiment, sans qui, il y aurait pas eu de film. Et tous les yaks aussi.
Ouais.
Voilà, les copains des yaks. Qui étaient vicieux ou pas?
Il y en avait un ou deux. Par la scène, justement, où ils sont un peu nerveux, les yaks.
Il y en a qui étaient un peu nerveux.
Mange un bonbon de galade.
Après, il y en a d'autres, par exemple, qui font des périodes. Par exemple, pendant une période, ils vont faire que de la scène, se reposer un petit peu et puis faire que du cinéma. On peut toujours s'arranger.
Alors justement, on parle de se reposer. Dans le film, le personnage de Samy, il souffre quand même, surtout pour les 2000 ou 3000 derniers mètres en haut. Est-ce que vous, ça a été un tournage un peu difficile?
Non, pas du tout. Ça a été vraiment une grande partie de plaisir, je pense.
Alors je vais poser Ludovic Bernard. Est-ce que vous l'avez fait un tout petit peu souffrir
Il a pas mal souffert. Le Metsila qui frime là devant le micro, il frimait pas tous les jours. Il y a eu des journées très difficiles parce que ça grimpe beaucoup et plus au fur et à mesure du trek, les dénivelés sont de plus en plus importants. Les trois derniers jours, quatre derniers jours avant d'arriver au camp de base, c'est assez difficile. Il y a des 700 mètres d'un seul coup à avaler et il fallait quand même tourner parce qu'il y a une lumière absolument incroyable et moi je voulais tourner le soir, je voulais tourner à la tombée du jour.
Donc on entend des moteurs.
Donc voilà, on a eu des moments un peu de fatigue évidemment.
C'était très bien.
Du coup, vous êtes devenu un grand sportif.
Toujours pas. Je suis toujours à la recherche de mon côté sportif. Non, mais en fait, il m'en a vraiment fait voir de toutes les couleurs. Par exemple, je savais pas que j'avais le vertige et il a fallu traverser des ponts suspendus. J'ai fait les échelles pour de vrai. Il y avait 30 mètres de vide en dessous de moi.
Le mur de glace aussi.
J'ai fait. Non, mais en tout cas, c'est moi ce que j'aime bien, c'est que dans le film. Samy, il se dépasse, il va vraiment au bout de ses efforts. Et en vrai, pendant le tournage, c'est ce que j'ai fait aussi. Il y a vraiment des fois où je me disais, allez, vas-y, encore un petit peu. Donc, on était sans cesse en train de chercher la motivation pour continuer à marcher, pour se dépasser sur des plans.
Vous, Ludovic Bernard, est-ce que les 20 ans d'expérience que vous avez déjà, en tant que réalisateur, vous ont facilité le travail, votre expérience? Est-ce que vous avez trouvé quand même que vous avez bien maîtrisé ou ça a été difficile?
Énormément, ça m'a facilité bien sûr la tâche parce que j'avais confiance en moi, j'étais pas inquiet de mes journées, je savais ce que je faisais. Après, je dirais le plus difficile sur ce film, ça a été la fatigue, de gérer la fatigue et de pas se laisser emporter la fatigue dans le laisser aller en se disant bon, c'est pas grave, on fera ça, on fera pas ça ou on fera un peu moins. Donc c'est de garder l'exigence très haute et malgré une fatigue tous les jours qui était de plus en plus grande. Voilà. Et garder surtout la lucidité sur le film, de ne pas perdre le fil conducteur du personnage d'Amen qui mène le film tambour battant du début à la fin. Donc ça, c'était ça.
Une dernière question, mais on va rester ensemble pendant toute l'émission. On va parler de la production avec Laurence Lascari, de la production du film, la production en général aussi avec Ludovic. Ahmed, c'est un travail très différent d'être devant la caméra ou d'être sur une scène?
Ouais, c'est un travail très différent parce que, en tout cas, Ludovic, il est allé chercher des émotions ou un jeu chez moi que je travaillais pas forcément sur la scène. Notamment toutes les scènes d'émotion, tout ça et tout, c'est vraiment un truc où on se met à nu et j'ai pas pour habitude de me laisser me déshabiller comme ça.
De l'improvisation du coup, il y avait la place
voler des choses parce qu'on voit un réalisateur, il vole des choses dans les regards et dans l'émotion,
c'est un manipulateur.
C'est ça, je lui ai dit, bon réalisateur.
Je lui ai dit dès le départ du film, je lui ai dit écoute, je suis ton homme jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Et voilà, vraiment, amuse-toi. Donc vraiment, il a modelé un petit peu tout ça. Et c'est autre chose que la scène, parce que sur la scène, je suis monté sur pile électrique, même si j'ai différents personnages, différents sketchs. Mais non, c'est pas la même approche.
Tu maîtrises, Laurence Lascari. Exactement. Faut que tu fasses confiance aussi.
Il faut que je sois d'accord avec. Chaque fin de plan, j'allais voir Ludovic pour lui dire est-ce que t'as ce qu'il faut? T'es sûr? On recommence pas? Donc c'était, j'étais. Puis c'est ma première expérience, donc
Est-ce qu'il y a d'autres questions, Maëlle, ou c'est bon pour le moment?
Ah, j'en ai plein, mais on peut.
Ah, allons-y, une autre petite pour la route.
D'accord. Alors, une question à tout le monde. Quel était le moment le plus compliqué à jouer ou à tourner?
Ah, ça, c'est une bonne question. Alors Ahmed.
Moi, c'est les scènes d'émotion.
Ouais.
Ouais.
Les scènes d'émotion.
Je suis très pudique et c'était parce que j'avais envie de vraiment de bien faire. Je voulais que les gens pensent que je suis vraiment touché, que j'ai froid, que ça, qu'elle me manque. Et puis il y a une autre scène aussi qui a été très difficile à tourner.
Allez.
Mais après, je veux parler de la fin du film, c'est pour ça.
Ah, d'accord.
Mais vous comprendrez.
On comprendra. La fin.
Ça, c'était très
Ludovic,
compliqué.
Le plus difficile.
Le plus difficile.
Vous parliez de la fatigue.
La fatigue, encore une fois, la fatigue. Mais sinon, il y a pas. C'est de garder le fil conducteur du film. Quoi.
Ouais.
C'est vraiment de garder le personnage principal dans le personnage qu'il est, et puis l'évolution. Quoi, à chaque fois qu'il y a un pas en avant, voilà, il devient un autre homme. À chaque fois qu'il devient, voilà.
Du coup, ça. Moi, j'ai Laurence une question. Lascari. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, enfin, où c'était compliqué par rapport à l'environnement que tu maîtrises pas ou difficilement?
Le mauvais temps, les...
Il y a eu des moments difficiles comme ça, surtout à Chamonix, où on a été un peu battu par la météo et la neige. Mais je trouve que ces moments difficiles sont dans le film, d'ailleurs, et cette difficulté est bien rendue dans le film aussi.
Exact.
Donc, moi, j'aime bien les contraintes.
Vous n'êtes pas parti au sport d'hiver à un moment, mais c'est... certaines images ont été tournées au Népal et d'autres à Chamonix pour faire
au-delà
la haute montagne.
Mètres, c'est difficile de tourner, donc effectivement de tourner le sommet de l'Everest à Chamonix.
Voilà, pour les dessous, pour les secrets de tournage. On se retrouve dans un instant, on écoute un extrait de la bande originale du film. En direct de cette grande séance avec nos invités. Okay. Tout va bien, Laurence Lascari, la productrice de l'Ascension, Ludovic Bernard, le réalisateur, Ahmed Silla, l'acteur principal, et on n'oublie pas Alice Belaïdi qui n'est pas là. Vous nous resituez un petit peu, comment on peut nous appeler, mon cher Maël?
Bien sûr, du coup, sur Twitter, @séance radio, Vous pouvez nous contacter avec le hashtag AskLascension pour poser des questions aux équipes du film.
Profitez-en, vous avez Ludovic Bernat, Laurence Lascari, Ahmed Silla qui sont en studio, ils sont en direct, donc profitez-en, ils peuvent vous répondre à toutes les questions. Dans un instant, on se retrouve avec la séquence événements.
Les événements cinéma sont dans la grande séance.
Les événements cinéma, c'est forcément la cérémonie des Césars et la cérémonie des Oscars. Donc, 42e cérémonie des Césars, 24 février prochain. Jérôme Commandeur aux commandes.
Ah, moi, ça va être très, très drôle. J'ai voté cet après-midi.
Vous avez voté, vous?
J'ai fait tout le monde.
Ah, c'est génial, c'est génial. Oui, parce qu'il faut expliquer aux auditeurs que tous les membres de l'Académie qui sont des mini-votes, ils reçoivent, ils ont la chance de recevoir des DVD, des DVD, des DVD
magnifique
de
coffret,
tous les films qui sont sortis dans l'année, et puis ils votent. Alors.
Moi, j'ai le meilleur espoir féminin, si vous voulez que je vous le dise.
Ouais.
Ouais. C'est le meilleur espoir féminin, c'est Oulaya Amamra.
Ah oui, divine. Divine.
Ah, pour Divine. Mmh. Ah, ben bah, voilà. Voilà un pronostic. J'allais
ah,
demander.
Ah, non, c'est pas un pronostic, c'est le résultat. J'ai appelé l'Académie.
Tarzian, ouais, bah oui.
Tarzian, il m'a dit écoute, oui, on va la filer à Oulaya.
C'est maman.
Ah oui, de
Mariama,
Maïmouna
Doukou, ouais, absolument. Ouais. C'est nous.
Ah non, mais je sais pas si vous l'avez vu, le film Divine, il est exceptionnel.
Si, de Houda Benyamina. Ouais. Alors, Jérôme Commandeur qui nous a dit qu'il allait quand même faire une petite allusion, même si tout le monde aura peut-être oublié, à l'histoire de Polanski, qui a dû se retirer. Ouais. On sait pourquoi, on va pas refaire l'histoire, qui a dû se retirer de cette présidence des Césars.
La formule est bizarre, hein.
Ouais.
Quelle formule. Se retirer.
Ah ouais, mais ça, c'est votre mauvais esprit.
Non, mais on n'est pas comme ça.
Je suis un fils de sage-femme.
Elle et France dominent les nominations.
Oui.
Avec 11 nominations chacun. Elle, évidemment, de Verhoeven, et France, de notre ami Ozon.
Oui.
Ouais, je me trompe pas. Devant Maloute de Bruno Dumont, c'est plutôt une bonne surprise. Moi, j'avais trouvé le film assez surprenant, assez drôle, quand on l'avait vu à Cannes. 9 nominations. Mal de Pierre de Nicole Garcia, 8 nominations. Divine de Houda Benyamina, 7 nominations. La danseuse de Stéphanie Di Giusto, 6. Juste la fin du monde. Chocolat. Roche Dizem et Chocolat de Roche Dizem Victoria, 5 nominations. Voilà. Voilà, alors.
Ça le playait, cette année, si.
Ça le playait, oui, je sais pas pourquoi ça a changé.
Ah, bah,
oui.
Ici, ah, ils sont en travaux.
Non, moi,
sont...
j'ai été capable de me tromper, d'arriver au Châtelet avec mon smoking, tranquille, et... parce que moi, je suis dans la salle maintenant. Après des longues années de bon lieu de service dans les coulisses à faire des interviews, je suis dans la salle. Tranquille, je regarde la cérémonie. Mais je fais des papiers le lendemain, quand même. Cérémonie des Oscars 2017. Alors là, c'est la 89e. 26 février, ceux qui sont au César et aux Oscars, comme ils avaient lu Père, par exemple, ils doivent prendre l'avion vite fait. C'est arrivé souvent.
Il y a pire.
Il y a pire. Moi, je l'ai fait.
Ça s'est arrivé à Dujardin, je crois.
Moi, je l'ai fait une fois l'année de. Moi, la seule fois où j'ai été à Hollywood aux Oscars, c'est parce que j'ai bien senti le truc, c'était l'année de Marion Cotillard. Donc, j'ai pris l'avion et elle m'a donné son Oscar dans ses bras quand elle l'a eu après, sur une colline, mais pas tout de suite.
Sur une colline.
J'ai pu peser l'Oscar de Marion Cotillard, j'en suis très fier. Donc, La La Land, évidemment.
Oui.
14 nominations. Ouais. C'est un record de nominations. Avec Titanic et Eve de Mankiewicz, je crois. Voilà, record de nomination. 14 nominations, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleur.
Il y a deux fois la chanson, je crois.
Qui a vu La La Land, là?
Moi. Ouais.
Okay. Vous, évidemment.
Bah voilà pourquoi on
Laurence,
fait que 344
Ludovic.
348 entrées.
J'ai vu l'ascension et j'ai vu La La Land. Deux fois.
Oui, mais La La Land n'est pas un film si extraordinaire. Non, plus, je suis sincère. Moi, j'ai des petites réserves. Je trouve que c'est un brillant exercice de style, mais qu'on voit.
J'ai préféré Whiplash, hein, franchement.
Ah oui, parce qu'on voit le cinéma.
C'est différent, mais après,
il y a la différence, c'est qu'on voit le cinéma.
C'est ce que j'entends, c'est ce que j'entends.
Moi, je vois le cinéma. Alors que Manchester by the Sea, je ne vois pas le cinéma. Je suis dedans. Alors qu'il y a du cinéma aussi pur dans le film de Kenneth Lonergan. Il faut aller voir Manchester by the Sea, c'est magnifique. Avant qu'il sorte des salles, parce que c'est pas un grand succès. C'est
le film de l'année.
De l'année 2016. Parce qu'il est sorti en 2016. Magnifique, avec Casey Affleck, qui, j'ai parié depuis longtemps, va avoir l'Oscar. Donc, Premier Contact de Denis Villeneuve, Comancheria, c'est assez étonnant, hein.
Ouais.
Petit film David Mackenzie.
Super, très, très bon film.
Il y a eu beaucoup de, bonnes critiques aussi.
Excellent film, 8 nominations.
Super bien filmé.
Ah ouais,
très beau.
Donc, vous allez quand même au cinéma de temps en temps, Ludovic.
Énormément, mais j'ai vu Premier Contact.
Vous avez vu tout ça. Non, je croyais qu'avec le tournage et la promo, vous n'aviez pas trop le temps. C'était pas. Tu ne tueras point, Mel Gibson, que j'ai pas vu. Lion de Garth Davis et Manchester by the Sea, quand même, 6 nominations. Voilà. Isabelle Huppert, évidemment.
Je ne crois pas trop.
Aux Oscars. Bah, c'est-à-dire que.
Bah, face à Emma Stone.
Au Golden Globe, il y avait les comédies
et les drames. Donc elle avait plus de chance, elle l'a eu. Mmh. Là, tout le monde est rassemblé. Il y a Emma Stone et il y a surtout Natalie Portman
ouais.
qui fait une composition et on sait que les gens des Oscars adorent les compositions. Et puis c'est la femme de Kennedy, tout ça. Donc là, moi j'y crois moins pour les Oscars.
Il y a eu beaucoup d'oscarisés dans les rôles féminins qui étaient issus en fait de biopics. Hein. On peut les citer. J'en avais fait d'ailleurs une critique dessus,
aux Oscars.
Bah, la môme. La môme.
Mais j'ai vu, elle, là, le film est dark, dark, dark.
Ouais. Ouais.
C'est une grosse comédie.
Oui, je l'ai vu.
Le film de Verhoeven.
Ouais.
Ouais, c'est spécial. Hein.
C'est très spécial. Moi, ça m'a tenu en angoisse tout le film, quoi.
Ouais. Moi, je suis pas un fan absolu de elle, mais bon, on parle comme si c'était un.
Le chat, je vois mes
chefs-d'œuvre. J'aime presque autant Basic Instinct, parce qu'au moins, il a de l'humour dedans.
La Sharon Stone est quand même plus bon nombre que Isabelle Huppert.
N'importe quoi, mais c'est dans
Isabelle,
le film,
si vous nous écoutez.
Je crois que nous sommes recoupés de l'antenne.
dans le film, elle est très bien, Isabelle Huppert. De toute façon, c'est une immense actrice, donc c'est ce qui compte. Et donc, parmi les meilleurs films, les nommés des meilleurs films étrangers, il y a Le Client d'Asghar Farhadi, dont on a dit
qu'il ne viendrait pas.
Qui ne veut pas venir. Et alors, oui, ça c'est bien parce qu'il y a Ma vie de courgette et La Tortue Rouge, superbe film d'animation. Vous les avez vus, Ludovic?
Non, ça j'ai pas vu. Non.
Alors Ma vie de courgette,
comme je voulais voir, c'était complet. Donc.
Ouais. C'est un très joli film. Ouais. La Tortue Rouge, c'est un petit bijou métaphysique, magnifique. C'est un film philosophique. Tortue Rouge, c'est un sublime. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre de
musique de Laurent Pérez Del Mar d'ailleurs.
Ouais, absolument. Splendide. Et ben dans un instant, on se retrouve. Ah oui, un petit truc comme ça gratuit. Pas parce que
pronostic.
Ceux pour qui vous avez voté, mais pronostic.
Pour.
Pour les Césars.
Je pense que Elle et Ozon.
Ouais, mais ça va se partager parce qu'il y a 125 nominations, mais il y a que 25 élus. Donc
je pense que c'est dans les deux, moi.
Dans les deux.
Ouais, dans les
pas
deux.
Forcément des outsiders qui vont arriver derrière.
Je crois pas. Non, mais je pense que Ozon est pas mal quand même. Son film est pas mal. Moi, j'ai bien aimé.
Vous l'avez vu, France
Après.
Ouais, absolument. Ouais,
c'est un beau film. Benjamin, vos pronostics. Acteur, actrice.
C'est Isabelle Huppert. Huppert, je pense que de toute manière, s'il l'a pas, il n'aura pas l'Oscar. Donc c'est un combo gagnant. On est obligé de faire comme ça. Hein, mais ça serait bien que Divine, effectivement, ait le meilleur premier film.
Ouais, et il est cité dans les deux, Divine.
Ouais.
Hein. Il est cité dans la catégorie.
Comme Thomas Caillé à l'époque avec Les Combattants, de mémoire, il était à la fois premier film.
Ah oui,
il avait remporté pas mal de choses.
Ouais.
Ah oui, on peut être dans le meilleur premier film, le meilleur film.
Absolument.
Tout à fait.
Et je l'année prochaine.
Et on peut remporter les deux ou pas, Benjamin?
Je crois pas, mais.
Si, quelqu'un l'a eu déjà.
Mais moi, il me semble.
Si, j'en suis sûr.
En tout cas, Taharim, il a eu, je crois, meilleur espoir et meilleur acteur.
Sur le film, c'est pas sûr. Sur le film, c'est pas sûr.
Ah si, je suis sûr qu'il y a quelqu'un. Il faudrait vérifier en coulisses.
Bon, pronostic, vous avez un favori?
Moi, je suis à fond sur France. J'ai vraiment adoré, je trouvais ça sublime.
Nina est citée dans les meilleurs acteurs.
Oui, j'imagine. Bah, de toute façon, Nina, c'est un peu une valeur sûre pour moi, mais après.
Mais il y a d'autres bons acteurs, hein, Benjamin. J'ai pas sous les yeux là, mais il y a d'autres excellents acteurs. Dans un instant, on se retrouve pour la séquence débat. On va parler de la production, et notamment avec Laurence Lascari.
La grande séance, le débat.
Alors, ça tombe bien, Laurence Lascari, que vous soyez productrice et que ce soit votre première production. Qu'est-ce qui vous a amené à la production de films déjà?
Je pense que ce que j'aime particulièrement avec ce métier, c'est que c'est ouvert sur tout. C'est à 360. On est à la fois, sur la fabrication, sur la partie business, les négociations avec les partenaires du film. Donc, c'est des choses que j'aime bien faire aussi. Mmh. Et puis, tout accompagner. En fait, on a vraiment l'impression de voir naître un film et puis de l'accompagner jusqu'au public et même au-delà en promotion.
Vous êtes allé sur le tournage?
Oui, je suis passée sur le tournage à la Courneuve, au Népal. Alors, c'est un peu spécial parce que quand je vais sur un tournage, j'ai vraiment l'impression de servir à rien, voire de me déranger.
Oui, c'est ça.
J'essaie d'être discrète, de regarder un peu ce qui se passe.
On vous pousse, on vous dit, tu peux te pousser un peu.
On m'a pris pour une figurante à la Courneuve.
C'est vrai. C'est drôle.
Ouais,
c'est excellent, ça. C'était votre première production. J'imagine que l'expérience et le résultat de l'expérience vous a beaucoup plu. Est-ce que c'est dur de produire un film? Est-ce qu'il y a eu des phases difficiles de trouver de l'argent, trouver les régions qui peuvent apporter de l'argent, la télévision? Comment ça s'est passé?
Je pense que le plus dur, c'est vraiment ce qu'on ne voit pas. C'est toutes les étapes jusqu'à ce qu'on ait le OK d'un distributeur. Donc tout ce qui s'est passé avant. L'adaptation, le travail d'écriture, ça a été hyper long aussi, parce que j'ai fait le choix aussi d'associer Nadir Dandoun, qui est auteur du livre et donc qui a gravi l'Everest, dont c'est l'histoire. J'ai fait le choix aussi de l'associer à l'écriture, donc c'est pas quelque chose qu'on recommande forcément. Moi, c'était ce que j'avais envie de faire. Et donc, ça a pris du temps aussi de pouvoir s'émanciper du récit, de pouvoir partir sur autre chose. Donc ça a déjà été long. Et après, en développement, c'est vrai que même si on arrive avec un high concept, comme on dit dans le milieu, avec une histoire qui est hyper forte et qui donne envie, malgré ça, certains peuvent avoir envie, mais pas avec moi en tant que productrice, ou d'autres peuvent avoir des réticences en se disant encore un film, un peu une comédie sociale, on en a déjà vu assez. Enfin, donc voilà, après faut arriver à convaincre avec ce positionnement-là, à pas non plus à garder l'intégrité du projet. Donc ça, c'était un enjeu aussi, parce que ça aurait pu aller plus vite si j'avais fait d'autres associations, on va dire. Et donc il a fallu tenir, il a fallu payer les droits d'adaptation du livre, alors que je savais pas du tout où on allait aller. Mais voilà le résultat.
Quand on dit l'intégralité du sujet, l'intégrité, oui, et aussi l'intégralité, ça veut dire qu'on vous dit, vous pouvez changer d'acteur, vous êtes un acteur plus connu, faut mettre un coucher de soleil à tel endroit, faut que la fin soit pas comme ça, non?
Ou
pas
c'est
trop
plutôt, non, c'est plutôt, ça, c'est plutôt en amont de tout ça, c'est plus dire, associez-vous avec tel producteur, c'est plus de cet ordre-là.
Ludovic Bernard, vous avez un petit peu d'expérience. Ça se passe comment le travail avec un producteur?
Faut travailler. On s'est bien entendu tout de suite. On voulait faire le même film, donc c'était ça qui était important. Faut pas qu'on soit l'un contre l'autre, parce que du coup, les choses vont jamais avancer dans le bon sens. Donc, faut vraiment qu'on avance main dans la main et qu'on aille de l'avant tous les deux du même pas. Voilà, c'est ça, c'est très très important. En tout cas pour moi, parce que j'aime bien être serein sur un plateau. J'aime pas les conflits inutiles. Donc c'était très important pour moi qu'on s'entende bien avec Laurence et ensuite avec le reste de l'équipe et les acteurs, bien sûr. Mais dans un premier temps avec Laurence, on a eu tout très vite cette envie commune.
Mais en tout cas, si je peux ajouter quelque chose, c'est que j'ai eu beaucoup de chance que Ludo soit dans cet état d'esprit-là, parce que par rapport à son expérience et la mienne, j'étais en position qui est plutôt fragile, et je trouve que on l'a fait ensemble ce film, et là-dessus j'ai eu beaucoup de chance, parce que ça aurait pu se passer autrement.
Et on s'est rencontrés ensemble d'ailleurs.
Ouais.
Ils sont venus me voir tous les deux.
Je me souviens. Et comment vous avez pensé à Ahmed?
Alors on a fait un casting, moi j'ai sollicité, donc c'était un moment où justement j'avais pas du tout d'argent pour ce film, donc j'ai fait appel à un ami, comme dans Qui veut gagner des millions, c'est un mec qui s'appelle Dez, que je salue s'il écoute, et il est venu, il m'a aidé avec la comédienne aussi Anissa Alali à faire ce casting, et ils ont fait venir donc à la Cité du Cinéma, là où j'ai mes locaux, tous les acteurs un peu en vue, noirs ou maghrébins de la place. Donc j'ai vu énormément, avec Ludo, on a vu énormément de fiches de comédiens. On en a vu une partie en essai. Et c'est vrai que quand on a vu Ahmed, on était tout de suite convaincus, emballés, enthousiasmés. Pour se rassurer, on a quand même fait un deuxième tour, mais c'est vrai qu'on a eu un coup de cœur.
Ah oui, donc c'était pas on va prendre Ahmed Silla, qui est déjà une petite vedette sur scène.
Il jouait au Petit Palais des Glaces à l'époque.
Je jouais à l'époque devant des fois 17 personnes au Petit Palais des Glaces, je vous assure que c'est vrai.
C'est vrai.
Ils sont venus me voir dans une petite salle de 110 places, le théâtre de Jean-Pierre Bigard, que je salue parce que je l'aime énormément. Et à l'époque, effectivement, ils sont venus me voir dans cette salle de spectacle où je remplissais, mais il y a des soirs où je jouais des fois des mercredis devant 12, 17, 22 personnes.
La famille.
Exactement.
Ludovic, vous l'avez choisi, comme vous vous souvenez, et qu'est-ce qui vous a frappé chez lui?
Sa timidité.
C'est vrai?
Et puis son sourire ravageur. Ouais. Qui peut avoir par moment. Et comme c'est ça que, et de toute façon, c'était quand même un rôle difficile à trouver, parce que le film repose sur les épaules de la personne qu'on choisit à ce moment-là. Donc il faut vraiment pas se planter, nous, avec Laurence aussi. Et Ahmed, ça a été très vite évident. Moi, le premier soir, la sortie du Palais des Glaces, je savais que c'était lui, parce qu'il a ce charme absolument incroyable. Il a cette aura de quand il est heureux, on sourit avec lui. Quand il est triste, on est triste immédiatement. Donc il y a quelque chose d'assez simple et naturel.
J'ai travaillé le casting comme jamais j'ai travaillé un casting.
C'est vrai.
Ouais, parce que j'avais reçu le scénario à lire. Je l'ai lu et j'ai dit, mais waouh, c'est quoi cette histoire? Et j'ai dit, je m'étais convaincu déjà moi-même que c'était moi. Je voulais que ce soit moi. Donc, je me rappelle, j'ai fait deux essais, l'école et au callback, parce que je savais que c'était réduit. Donc, on n'était plus que quelques-uns en course. Donc, j'étais très, très, très stressé.
Mais je savais qu'il savait le texte par cœur, mais il était tellement tordu qu'il butait dessus, le pauvre. C'est affreux, le casting. Hein. C'est vraiment un truc que je ne ferai jamais, c'est acteur, en tout cas.
C'est vrai.
Impossible.
Et après, est-ce que vous avez tous rencontré Nadir, dont l'histoire est adaptée? Il était présent pendant le tournage ou,
Il est passé, oui, à la Courneuve et au Népal et aussi, sur le tournage. Ouais.
On le voit dans le film.
Alors, on a parlé de la production de l'Ascension, mais je voulais poser la question, vous débarquez un peu dans la production, je voulais poser la question à Ludovic Bernard. Là, ça s'est bien passé, mais produire un film aujourd'hui, est-ce que c'est pas difficile? Même si vous n'êtes pas producteur, vous avez vu des films se mettre en production
C'est difficile, je crois, de trouver le bon sujet, de trouver les bonnes personnes qui suivent financièrement. Et comme l'a dit Laurence, un distributeur, parce que sans distributeur, il n'y a pas de film. Moi, j'ai eu quelques scénarios que j'ai essayé de mener au bout, mais il n'y a pas eu de distributeur. On avait des producteurs, mais pas de distributeur. Il y avait de l'argent dessus, mais pas de distributeur, encore une fois. Donc, tout tombe à l'eau sans distributeur.
Et
donc,
qu'est-ce qui fait que Mars a dit « Ok, j'y vais »
Mars, Stéphane Sellery a tout de suite aimé le projet. Ouais. Il rentrait dedans. Il n'y avait pas encore Ahmed à l'époque. Il n'y avait pas encore l'acteur principal.
Si, il y avait
Ahmed, voilà.
Mais nous aussi, on a eu
le
droit.
Le soir de Laurence, ça marchait aussi.
On a eu droit à un rendez-vous, ensuite un callback. On était hyper stressés.
C'est ça, on a passé le casting aussi.
Non, et puis je crois que ça va avec un petit peu avec le line-up aussi de Mars Distribution, qui aime bien les films comme ça, à la fois drôles, des fois touchants. On l'a vu avec La Famille Bélier, plein de films comme ça, ils aiment bien le.
Est-ce qu'il y a des modes? Est-ce que, parce qu'on a entendu dire que depuis, qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu, la Famille Bélier, c'était les comédies, est-ce que vous avez l'impression, Laurence Lascari, que les distributeurs et autres producteurs, ils veulent des comédies en ce moment?
C'est vrai que j'ai l'impression que c'est le genre, en tout cas, qui est le plus commercial, qui permet de générer des entrées en France, ça reste quand même la comédie.
Là, en 2016, c'est incroyable, les 10 premiers films sont des comédies. J'avais fait un petit calcul que dans les 20 premiers films côté français, ils arrivaient à avoir 22 millions d'entrées, les 15 ou 20 premiers films, rien qu'en comédie pure.
Il y a eu tellement d'événements aussi, je pense.
On
a envie, je pense, un peu de légèreté. Il y a des films qui ne sont pas sortis d'ailleurs à cause de...
Exactement.
Oui, absolument.
La gueule à cause des événements tragiques qui nous ont tous touchés. Donc voilà, c'est important d'aller, je crois, l'Ascension contribue
un peu
à ça.
Et pour un distributeur, c'est une énorme prise de risque. Donc c'est sûr que lui, il met ce qu'on appelle un MG, un minimum garanti. Donc il faut qu'il y ait des recettes sales quand il accompagne son producteur sur une histoire. Donc c'est sûr qu'il doit essayer de trouver les formules qui lui permettront à minima de se dire qu'il y a des remontées de recettes.
Et de temps en temps, il y a des beaux drames qui marchent, il faut le dire.
Mais là, je trouve que l'Ascension, la force du film, c'est que c'est pas une comédie dans le sens où c'est pas un film à gag où on va rire arrêt. Mais par contre, c'est un film qui fait vraiment sourire. Mais ça se concentre que sur l'optimisme et l'espoir et des belles choses. Oui, mais ça reste beau, même en étant émouvant. Ouais. C'est des valeurs positives. Et du début à la fin, je trouve que ça transpire
c'est le feel good movie.
Ouais, exactement, mais au vrai sens.
Et moi, je m'attendais pas à autant de réactions positives, en tout cas, que ce soit aussi dithyrambique. Quand je lis, moi, assez souvent les commentaires sur Twitter, les gens relèvent ça, quoi. Ouais. Et ça, c'est agréable.
Alors attention, dans un instant, on va se retrouver avec le fameux quiz.
Ah.
Jouez avec la grande séance.
Mettez vos casques.
Tout de suite, le blind test.
Il y en a pas.
Votre émission 100% cinéma.
Il y en a un, je sais pas si marche. Alors attention, Ahmed, prenez un casque parce que ça... Je sais pas si ça va être facile. Dites-moi, Ahmed, si vous entendez tout.
Voilà. Ah yes, j'entends. J'ai cette voix-là à la radio.
Même dans la vraie vie. Hein. Ça va
être, je peux vous dire que moi j'ai la liste sous les yeux, les résultats, ça va être costaud. On y va pour le premier.
Ben Salmin.
Mal au bide. J'étais qui ce putain?
En plus c'est de la VF pour les films anglais.
Ah ouais, loin.
On peut lancer à la volée, on ne sait pas trop.
Je pense qu'on va tenter Cliffhanger et
Est-ce que c'est pas l'Ascension de Ludovic Bernard, ça? le remake.
Alors, je, Dieu, il est trop difficile celui-là, moi je l'ai pas vu. Si, c'est un gros blockbuster.
La sanction.
Everest.
Bien joué.
Ramon.
Venez me rejoindre.
Cliffhanger.
C'est la moitié du Mégane.
C'est en montagne de montagne.
Écoutez bien.
Ah, ça fume de montagne.
Je crois que je peux tout faire sans l'aide de
tous. Tous.
Salut.
Sans l'aide de
à mon avis,
délivrance.
Rien à foutre de nous.
Aaron.
Ah non, c'est un truc américain, ça, encore.
Personne où tu allais.
Ouais, exactement.
Je reconnais pas du tout. 127 heures.
Ah ouais,
127 heures.
Ah ouais, bah 127
c'est pas de la montagne, c'est coincée, du canyon, je suis désolé.
Ça, c'est
pas du tout.
C'est quand il a la main.
Ouais, il a la main coincée, il se coupe la main. C'est une histoire vraie.
Ah ouais?
Il a la main coincée dans un rocher, il est seul dans un truc, et au bout de 8 jours où il meurt, et il s'est scié la main, et il
s'en est sorti. Couteau suisse.
C'est une histoire terrible.
C'est ce qu'a fait Amen, en fait. Il a une main
bionique. Exactement.
Non, mais c'est une histoire vraie. Hein. C'est marrant, j'y pensais aujourd'hui à cette histoire. Je me dis, comment ce mec a pu faire ça? Il s'est scié la main.
Regarde, tout petit truc en plus.
Entre deux rochers.
On peut passer au prochain.
Il a mourir de faim. Et voilà, on passe au prochain. Attention.
Votre blessure était grave.
Film français.
Montrez-moi votre jambe.
Non, tournez
les bronzés.
Ah bah les bronzés font des skis. Pas du tout. Ah non, c'est pas là.
Si on s'est pas trompé.
C'est pas vos affaires.
Non, c'est pas. C'est pas les bronzés.
C'est dramatique.
Attendez, c'est mon affaire, c'est ma vie.
C'est un film de Jean-Jacques Hano.
Ah, l'ours.
Non, non. 7 ans au Tibet.
7 ans au Tibet avec Bradley.
Alors là, c'est plus facile, mais en même temps, moi, c'est un film que j'ai adoré qui est sorti l'année dernière. Allons, on y va.
L'année dernière.
Le 4.
Mais tu sais quoi, moi, si je pouvais, je les ferais, les JO.
Ah, c'est avec Franck Gastambide, ça.
Algérienne.
Toi, en revanche.
Oui,
Vive Algérie.
Good luck, Algérie. C'est un très très bon film de Farid Bentoumi. Oh là, le 5. Film américain.
Brokeback Mountain.
Bravo.
La musique.
On a rien entendu. Brokeback Mountain. Le secret de Brokeback Mountain. facile. 6. Attention.
C'est ça le Mont Blanc? Pff,
mais non, bronzé. C'est le Mont Rose là.
On l'écoute aussi.
Alors,
tu vois là, c'est le
début.
Ouais,
avec
on écoute un peu. Okay, c'est le
pire. La couleur du Grand Bronx, c'est derrière là. On peut pas la voir. La chance sent tout petit. Hein. De toute façon, t'es pas bien grand alors.
Voilà, ça c'est les bronzés pour du ski. Ça me fait toujours plaisir.
Ça
le numéro 7.
Tout ce qui est vie doit mourir.
Ça doit
renaître et à nouveau mourir.
Il faut combien de vies pour devenir chef?
Un indien dans la ville?
Non, Himalaya, l'enfance d'un chef.
Ah, c'était
Eric Valli.
Ouais. Ok, super.
Ça, je ne l'ai pas vu. On y va, le 8.
Sur un bobsleigh, il n'y a pas 36
personnes.
Le 9.
Pour moi, les montagnes sont ce qu'il y a de plus beau au monde.
Cliffhanger.
Non.
Quand je suis en montagne, j'ai une sensation
toujours toujours une histoire un peu comme de résilience, le mec qui s'en est sorti de pareil. Le mec est au fond d'un ravin. Son mec l'a a coupé la corde, c'est une histoire vraie. Il est au fond d'un ravin, il doit mourir, il a grimpé dans le ravin, il est allé comme...
On est plus fort.
La mort suspendue. Vous vous souvenez pas de ce film de Kevin MacDonald?
Pas du tout.
Non. C'est une histoire incroyable. Le type est obligé de couper la corde, le type est au-dessus parce que sinon il va mourir. L'autre tombe dans un ravin et puis il est laissé pour mort. Il va revenir au camp de base en rampant sur les... Une histoire vraie aussi. Le dernier...
Je vois sur ton CD que t'as fait le Mont Blanc.
Là, c'était la surprise du chef.
En plus, il faisait beau.
C'était la surprise du chef.
Il y a un très beau film de montagne qui s'appelle La Sanction. La Sanction.
La Sanction
de Clint Eastwood qui a été tourné dans les années 70.
Ah, je me souviens.
Qui se passe sur en Suisse, sur le
Oui,
guerre.
Absolument.
Et,
ah oui, c'est un très beau
polar,
film.
Un polar.
Oui, en Suisse. Ah oui, je me souviens.
C'est absolument génial. Un vieux polar. Ouais,
c'est vrai.
La fille d'en haut aussi d'Ursula Meyer. Je pensais que vous l'auriez mis.
Ah oui, moi, celui-là, je ne l'ai pas vu. On se retrouve dans un instant pour conclure cette émission.
La grande séance, l'émission 100% cinéma de Séance Radio.
Donc, nous avons parlé de l'ascension aujourd'hui de Ludovic Bernard avec Laurence Lascari, la productrice, et Ahmed Silla. Qui veut conclure sur cette belle aventure? Ahmed,
oui, c'est
lui. Soyez heureux. Vraiment, c'est le leitmotiv. C'est ce que je répète souvent en ce moment. Soyez heureux.
Laurence, vous, est-ce que vous êtes partie vers de nouvelles aventures ou vous, pour le moment, vous,
bah
vous
oui,
prenez
faut,
votre temps?
Il faut toujours être dans le, sur le film d'après, donc on est en train de préparer ça avec une autre comédie.
Une autre comédie, voilà. Ce sera une comédie. Et Ludovic, parlez-nous un peu de vos projets, parce que maintenant c'est parti.
Alors moi j'ai tourné,
à vous la liberté.
J'ai tourné une autre comédie qui se passe dans le Pays Basque avec Florent Père et Élodie Fontan.
Ouais. Ah, Élodie Fontan, qu'on ouais. voit dans Alibi.com.
C'est absolument génial. Et ça va sortir au mois de juin, voilà. Et j'ai des projets d'écriture, voilà. Donc je travaille dessus en ce moment.
Super. Donc voilà, longue vie en tout cas à l'Ascension. Maëlle, vous avez quelques réflexions d'auditeurs qui veulent parler du film.
En fait, on avait demandé aux internautes d'envoyer des messages d'encouragement. En fait, tout simplement, on avait créé le hashtag GoSami. Je ne sais pas si vous aviez pu le voir, du coup, qui permettait de soutenir la sortie du film, tout simplement. Et donc, du coup, il y avait quelques messages, effectivement, juste parce que je suis fan, allez-y, Ahmed, continuez, hashtag GoSami. C'est un bon film, j'ai pu le voir, j'ai beaucoup aimé. Allez, hop, on y va, on se lève. Plein de petits messages comme ça, hyper sympathiques.
Ils ont été super gentils, les gens, c'est vrai.
Vraiment, et donc, c'est un peu comme vous disiez, à l'image du film. On a que de la bienveillance de toute façon chaque fois que nous on en parle sur les réseaux sociaux. Donc
et ça provoque ça. Exactement. Je trouve que le film provoque l'envie d'être bienveillant.
Ouais.
Et
Donc allez voir l'Ascension.
Faut pas être méchant quoi.
Ouais.
Allez voir
ce
le
que
film.
Je découvre avec ce film là, c'est toute cette bienveillance, c'est super agréable.
Mais parce que les gens sont sympas.
Il en reste. Il en reste.
Envoyez-le à Donald Trump peut-être.
Ce sera le mot de la fin. Le podcast de l'émission, je vous le rappelle, sera disponible dès demain sur le site séance.radio.com. Et nous, on se retrouve au mois de février, au mois de mars, pour la prochaine émission, pour la prochaine séance radio, la grande séance sur Séance Radio. Merci à tous.
Merci.
C'était La Grande Séance, l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Kras et toute son équipe sur Séance Radio par BNP Paribas.